L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Voici la dernière émission de la saison avec l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui viennent aujourd'hui, c'est plutôt logement et même logement étudiant, puisque c'est de saison. Et c'est aussi une étape importante dans la vie. Souvent, c'est quand on attaque ses études supérieures qu'on quitte le nid. Car les formations, bien sûr, se concentrent dans les grandes villes. Tout le monde n'habite pas forcément dans les grandes villes, notamment nous, en centre Finistère. Donc, il faut se loger quand on est étudiant, à Brest, à Quimper ou au-delà. Voilà qui va permettre aux étudiants, si le virus ne s'invite pas, de vivre aussi pleinement leurs expériences sociales, hors du cadre familial. Bonjour Valérie Boulge.
Bonjour.
Juriste de la CLCV. Bon, alors j'arrête la poésie. On va passer au concret, donc. Alors, quelles sont déjà pour commencer les aides au logement étudiant?
Le classique, ça va être effectivement ce qu'on appelle l'APL ou l'allocation logement. Alors maintenant, je crois qu'il me semble qu'avant, on faisait une différence entre l'APL pour le logement social et l'allocation logement pour le logement privé. Maintenant, c'est sous une même appellation. Donc, il faut faire une demande tout simplement à la CAF. Dès que vous avez trouvé votre logement, ne pas attendre et de faire cette demande qui va vous permettre, en fonction du montant de vos revenus...
Oui, c'est ça, c'est conditionné quand même.
Alors, c'est pas forcément... Non, je dis les revenus, non, je me trompe là. Effectivement, les revenus, ça va peut-être plus pour les bourses. Non, ça va être en fonction du prix du logement, puisqu'on a droit tous, les étudiants n'ont pas de revenus en fait, ils vont déclarer une absence de revenus et ils vont faire une demande en fonction du montant du loyer, ils vont faire une demande auprès de la CAF et ils vont se voir attribuer une somme qui peut aller de 150 à 190 voire plus selon le montant du loyer. Mais là plus souvent c'est à peu près ces eaux-là puisqu'on est dans un loyer entre 300, 400, 500 euros selon les logements étudiants et la taille.
On va prendre des prix finistériens en tout cas.
Voilà.
Et il faut faut être majeur ou parce que quand on a par exemple, est-ce que la CAF regarde le revenu des parents?
Alors c'est justement là où il faut faire attention, en tout cas pour les parents, puisque par exemple on prend le cas d'un couple qui a deux enfants, donc c'est le premier enfant qui part, il a ce qu'on appelle les allocations familiales. Donc il va falloir faire un calcul puisque les allocations familiales, si vous faites une demande d'APL, vont être supprimées. De fait. Alors souvent, ça se joue à je sais pas, une dizaine d'euros près, l'un ou l'autre. Donc moi, ce que je conseille peut-être, mais ça va faire ce calcul-là, c'est que tant que l'enfant n'a pas 20 ans, de conserver peut-être les allocations familiales qui vont couvrir la somme que l'on reçoit autrement. Et à partir du moment où l'étudiant, en tout cas l'aîné, a 20 ans, de toute façon, on perd les allocations à ce moment-là et de faire une demande d'allocation logement.
Oui, et je suppose que si on a déjà une allocation logement, si les parents ont déjà une allocation logement pour leur propre foyer, enfin pour leur propre logement, ils n'ont peut-être pas le droit à en plus une allocation pour un logement.
Logiquement, c'est autre chose en fait, puisque la demande n'est pas faite au nom des parents, la demande est faite au nom de l'étudiant. Donc en fait, quand on va lui demander de déclarer ses revenus, effectivement, c'est pas ses revenus il en a pas, donc ça va être nul à ce moment-là.
Donc il peut avoir les deux alors.
Voilà. Pour moi, oui. Alors, à vérifier, mais normalement, oui. La seule différence, c'est par rapport aux allocations familiales que touchent les parents, qui peuvent être supprimées, puisqu'on ne peut pas à la fois toucher des allocations familiales pour les enfants et une allocation logement.
Bon, d'accord. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres aides, à part les aides de la CAF, auxquelles certains étudiants, en tout cas, pourraient prétendre?
Après, il y a effectivement un prêt étudiant, parce que les études, ça peut coûter cher. Il y a le logement et à la fois les études. Donc, il y a des possibilités d'avoir des prêts à prix réduit, en fait, entre guillemets.
C'est quand même un prêt.
Ça reste un prêt, donc ça reste une somme à rembourser. Donc, il faut avoir conscience de ça. Je crois qu'il existe autrement un revenu minimum étudiant, mais c'est très, très peu de villes l'ont mis en place. Ça relève des collectivités. À ma connaissance, sur le Finistère, pour ce qui nous concerne, il n'y a que Plougastel d'Aoulas qui l'a mis en place. Donc, il faut aller voir la commune, voir si on rentre dans ce cadre-là. Et effectivement, ils ont mis ce revenu minimum étudiant. Je crois que ça date d'assez longtemps maintenant. Ça date de 2011. Et je pense que c'est toujours en place. Donc, pour les étudiants, en tout cas, qui habitent cette commune et qui veulent faire des études, ça vaut peut-être le coup de se renseigner auprès de la ville.
En effet, c'est toujours bon à savoir. Alors, donc, les aides au logement, ok. Et alors, quand on est étudiant, quel type de logement chercher?
Alors, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'on va aller plus facilement vers du meublé. En fait, c'est ce qui va être le plus simple. Les logements étudiants sont, je dirais presque à 70-80% à mon avis des meublés, parce qu'on peut prendre en libre autrement, mais ça veut dire, c'est pas le même type de contrat. Le meublé a cette facilité, c'est que la loi prévoit la possibilité de faire un bail de 9 mois au lieu d'un an, ce qui permet en fait de se caler avec la période d'études, hein, de septembre à juin ou juillet. Donc ça permet de se caler là-dessus, et c'est vrai que c'est ce qui est le plus pratique. Vous n'avez pas de meubles à avoir, donc je dirais que la majorité vont vers ces logements meublés.
Mais la question, c'est est-ce qu'il y en a assez dans le Finistère ? Je ne sais pas si la CLCV a enquêté là-dessus.
Mais... Non, on n'a pas enquêté, mais à titre personnel, je suis en recherche d'appartements. Donc, je sais, oui, il y en a, mais par contre, il ne faut pas attendre trop longtemps. Le souci, en fait, ce qu'il y a cette année, et peut-être, c'était peut-être déjà le cas l'année d'avant, c'est qu'avant, on attendait les résultats du bac. On avait une incertitude par rapport au fait qu'il y avait des épreuves et que le bac se jouait sur ces épreuves et pas sur le contrôle continu. Or, depuis 2 ans, à la fois avec la Covid et avec le nouveau bac qui, effectivement, prend en compte une bonne partie de contrôle continu, on peut pratiquement savoir d'avance les résultats du bac. Donc, les gens sont déjà en train de chercher. Donc, si vous attendez les résultats du bac, le nombre de logements à disposition va être très restreint.
Sauf qu'on ne sait pas exactement forcément quelle étude supérieure et à quelles études on va pouvoir.
Restent les résultats, effectivement, de Parcoursup qui sont tombés. Ceux qui peuvent déjà avoir leur réponse et qui savent déjà où ils vont pouvoir faire leurs études peuvent s'y mettre déjà et ne pas attendre. Par contre, effectivement, ceux qui sont toujours sur liste d'attente au niveau de Parcoursup, oui, effectivement, ça peut poser souci. Il y aura toujours des offres, mais c'est vrai qu'elles seront moins importantes.
Alors après, il y a un autre choix qui peut se présenter. Alors ça dépend peut-être, je sais pas, de la personnalité ou peut-être du parc aussi. Est-ce que c'est intéressant de choisir une colocation ou pas ?
Alors oui, ça peut toujours être intéressant. Après, les prix peuvent être... Sur le principe, les prix sont souvent un peu moins élevés que de prendre un appartement seul, mais souvent maintenant, ce sont des grandes maisons ou des grands appartements où on remarque, en fait, moi, pour les recherches que j'ai pu faire, souvent la chambre, alors parce qu'on a accès à tout le reste de la maison, sont toujours entre 300 et 400 euros. Donc voilà. Après, c'est intéressant, mais il faut accepter de vivre avec quelqu'un d'autre parce qu'on va vivre en commun. Donc ce que je conseille dans ces cas-là, quand il y a une colocation à faire, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais se faire un règlement intérieur, c'est-à-dire au niveau notamment du paiement des charges, ça peut être les ordures ménagères, ça peut être l'assurance habitation ou autre, de définir comment ça va fonctionner, qui paye quoi, si c'est payé avec un compte commun, si les locataires ont un compte joint ou pas, et de définir un peu les règles de vie à l'intérieur de la colocation, parce que ça peut être génial comme ça peut devenir un enfer. Donc après, savoir si on y va avec quelqu'un qu'on connaît, si on y va avec des personnes qu'on ne connaît pas, l'un ou l'autre peuvent être une solution intéressante. Donc, c'est un choix avec ses risques, ses avantages et ses inconvénients.
Après, il y a peut-être moins de meublés en colocation.
Ah non, souvent c'est meublé également. Ça peut être en meublé, il n'y a pas de souci.
Et puis il y a peut-être d'autres formules qu'on peut rappeler, logement chez l'habitant,
chambre chez l'habitant. En fait, tout va dépendre du budget dont on dispose. C'est pour ça que là, on n'a pas parlé non plus, mais et on a aussi les logements CROUS pour les étudiants. Donc c'est les logements pour les personnes qui sont boursières, qu'ils peuvent. Donc la demande est à faire quand même suffisamment tôt. Il y a un site en fait sur messervicesetudiants.com. Je crois que c'est .com, si je ne me trompe pas, mais entre les services étudiants, si ce n'est pas .fr, où il faut, alors ça doit être mars ou quelque chose, ou jusqu'à mai, je crois qu'on peut en fait déclarer, faire sa demande. Alors ça fait à la fois la demande de bourse et la demande de logement. Et après, en fonction de l'offre, fin juin, on reçoit la réponse du CROUS pour dire si dans une résidence étudiante, on peut avoir un logement. Alors les loyers sont quand même moins chers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment... toutes charges comprises, parce qu'on n'a pas parlé de savoir ce que c'était toutes charges comprises.
On va en parler, c'est sûr.
Je crois que c'est important. Là, ça l'est vraiment. Je peux l'évoquer là ou ça serait
Oui. Oui, éventuellement. Bah,
voilà.
Allons-y,
Si on regarde une annonce, la plupart des annonces de meublés qu'on va regarder sur le Bon Coin ou d'autres sites de mise en relation entre particuliers, c'est que pour les meublés, c'est souvent toute charge comprise. Mais là, ce qu'il faut l'entendre, il faut faire attention, c'est toute charge comprise, c'est-à-dire que le propriétaire, sont incluses dans les charges ce que le propriétaire paye et qu'il peut récupérer sur le locataire. Ça peut être de l'entretien des communs, l'entretien des espaces verts, la taxe d'ordure ménagère ou des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire forcément le chauffage.
Ah oui, c'est
et
ça.
Et je préfère être précise là-dessus parce que de nombreuses annonces que moi j'ai moi-même pu regarder marquent systématiquement toute charge comprise, ce qu'on aurait tendance à inclure. Si le chauffage est individuel, ce n'est pas un chauffage collectif, automatiquement, il faut se rajouter au loyer que l'on va payer toute charge comprise, bien évidemment, mais il faut rajouter l'abonnement au gaz et à
à l'électricité. Et l'eau aussi, peut-être,
l'eau peut, alors, c'est ça, ça, il faut regarder. Ça, l'eau peut être aussi inclus dans les charges, quand même, ne peuvent pas l'être. Donc, effectivement, ça peut être, jusqu'à 3 abonnements supplémentaires avec des parts fixes. Quelle que soit la consommation, elles resteront fixes hein, de toute façon. Et vous avez aussi effectivement la consommation. Et ça peut aller, en, si on rajoute le gaz, l'électricité, éventuellement l'eau, je pense qu'on peut des fois rajouter, si on cumule ces trois-là, facilement jusqu'à 100 euros en plus de charges mensuelles au loyer que, qu'on a regardé. Donc si vous ne vérifiez pas et que vous ne demandez pas quel est le type de chauffage, si vous pensez qu'effectivement vous êtes fixé un budget, je ne sais pas, moi je jette à 400, on est à 350 effectivement pour le logement, on dit ben voilà, toute charge comprise, c'est nickel. Sauf que si vous rajoutez une centaine d'euros à côté, malheureusement, vous allez dépasser vos capacités financières.
C'est ça. Donc, les logements étudiants, toutes les charges vraiment sont comprises, y compris le chauffage, c'est ça ?
Voilà, alors effectivement, quand vous êtes dans des résidences CROUS, quand on entend toute charge comprise, là, c'est effectivement l'eau, l'électricité, le gaz, quand c'est un chauffage au gaz, et tout est inclus.
Et, alors, donc,
et Internet également, parce que ça, on l'oublie.
Oui, ça aussi.
Mais c'est vrai que maintenant, un étudiant ne peut pas fonctionner sans Internet. Alors souvent, dans les logements meublés, on vous dit si c'est fibré, si c'est relié à la DSL ou pas. Mais certains propriétaires vont l'inclure dans les charges, c'est-à-dire vont dire, voilà, l'abonnement est conclus, inclus, et ils mettent la box. Mais d'autres, non.
Et donc, il faut aussi parfois, faut apporter sa box.
Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut calculer entre 20, 30, 40 euros en plus selon l'abonnement ou le choix qu'on va faire.
Et oui, ça n'existait pas avant.
Non, c'est ça.
Et donc, si on a fini le tour d'horizon des logements, donc il y a aussi donc les chambres chez l'habitant, ça peut être intéressant, ça.
Oui. Après, c'est souvent ça peut être intéressant. Après, le problème chambres chez l'habitant, faut voir si en ville. Ça se fait beaucoup, c'est souvent à la campagne qu'on va retrouver plus facilement les chambres chez l'habitant. Mais oui, c'est une solution, c'est souvent moins cher. Après, il faut accepter effectivement d'avoir une chambre et de vivre chez quelqu'un. Mais oui, c'est toute une possibilité aussi.
Et il y en aurait d'autres qu'elle n'aurait pas pensé éventuellement pour les étudiants je ne sais pas s'ils vont au camping, les étudiants, c'est plutôt les travailleurs saisonniers. Ou...
oui, autrement, ça peut être aussi maintenant, alors c'est un peu une chambre chez l'habitant, mais c'est, ça se propose de plus en plus et ça se développe. Alors je ne sais pas si on l'a trop sur notre secteur, mais c'est la mixité avec une personne âgée et un jeune, en fait, ou une personne âgée va demander, en échange d'une chambre à un prix un peu réduit, va demander peut-être de l'aide à un étudiant qui va pouvoir aller lui faire ses courses, lui faire à manger. Ou, voilà, ça peut être ce genre de choses aussi qui se développent.
Est-ce qu'on peut dire un petit mot des sources, des sites fiables pour trouver des annonces intéressantes?
Alors, c'est toujours difficile. Alors, vous avez donc déjà mes services étudiants ou Locavit, je crois que ça c'est L-O-C-A-V-I-T-Z.
Bon, on vérifiera tout ça.
Ça sera plus facile. Et aussi les logements étudiants et notamment les logements CROUS, mais qui peut mettre aussi en relation des particuliers. On a effectivement le Bon Coin, mais tout avec la réserve qu'on peut avoir, puisqu'il faut faire attention aux informations que vous allez demander. Il faut vraiment poser beaucoup de questions.
On va y revenir.
Pareil, et qu'est-ce qu'on peut avoir autrement? Les journaux, en fait. Vous avez Ouest France ou Telegram qui ont des listes d'annonces. Après, dans les grandes villes, vous avez peut-être plus de sites qui peuvent intervenir, ou ça peut être, il y a des sites spécialisés dans la colocation aussi, de mise des services mis en relation, et puis on peut passer aussi par des agences. Les agences, il faut juste avoir conscience que vous allez avoir des honoraires d'agence, et après vous pouvez avoir aussi des honoraires, c'est pas vous pouvez, vous aurez, pour la rédaction du contrat et l'état des l'effectivité de l'état des lieux d'entrée.
Alors oui, justement, la question, quand on a une annonce, notamment, je pensais bien sûr sur Internet. Quels sont les indices de fiabilité ou pas fiabilité? Enfin, quels sont les signes à surveiller, on va dire?
Alors, moi, je dirais déjà pour l'énergie, normalement, un propriétaire doit faire apparaître le DPE. Alors, j'explique, DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est un diagnostic du logement qui est fait avec une évaluation de la consommation en énergie, ce qui permet d'avoir une certaine visibilité sur les charges qu'on va pouvoir avoir à payer.
Surtout si le chauffage n'est pas inclus.
Voilà, alors c'est ce que vous voyez souvent sur les annonces A, B, C, D, voilà. Ah, c'est très rare, hein, faut être honnête.
Ça
si vous voyez un électrique, chauffage électrique, et vous voyez A, fuyez à toute
chance,
c'est que c'est du mensonge. Voilà. Si il ne figure pas, ça sera intéressant de le demander. De toute façon, un propriétaire a l'obligation de vous le remettre. Donc ça donne cette information-là. Après, il ne faudra surtout pas hésiter à poser beaucoup de questions, de voir le chauffage, de vérifier un peu quelles sont les charges incluses. Par exemple, si vous êtes dans un immeuble, il y a l'entretien des communs ou des choses comme ça, c'est plein de petites charges qui viennent se rajouter. Donc, il y a plein de petites choses à regarder. Il faut être très, faut pas hésiter à poser des questions, à préparer, à les préparer à l'avance quand vous faites la visite, parce qu'une visite est très importante. Et à ce moment-là, bah, vous allez ouvrir les robinets, vous allez éventuellement tourner les volets roulants, voir un peu s'il y a une hotte, vous regardez, essayer de regarder si tout marche bien.
Ouais, c'est ça.
Et faire le détail, et si effectivement... Parce qu'un propriétaire a l'obligation de vous louer un logement décent. Donc, il ne faut pas regarder s'il n'y a pas des points d'humidité. Voilà, il y a plein de choses à être très attentif. Et pas se contenter d'une vision globale et dire waouh, un premier logement c'est chouette, il est bien, mais il faut aller regarder un petit peu plus dans les détails.
Quelles sont les autres questions qu'on pourrait se poser, ouais, éventuellement
Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme autre question? Ça peut être le bruit aussi, c'est pour dire voilà, faut regarder où est situé le logement. S'il est à côté, par exemple, d'un bar ou quelque chose, ça peut être très bruyant. Et quand on est étudiant, alors ça peut être
grave.
Côté sympathique. Non, ça peut avoir le côté sympathique, mais ça peut être très bruyant quand vous devez travailler. Alors, les bars, pour l'instant, n'étaient pas ouverts très tard,
Là,
ça va reprendre. Il faut regarder aussi peut-être la distance et les par rapport au lieu d'études et par rapport au transport en commun qu'il peut y avoir à côté. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut être amené à regarder. Et on ne pense pas toujours, mais effectivement, il faut prendre le temps de regarder le tout, dans la globalité, pas dans le détail, enfin pas dans le point précis. Et juste le logement vous plaît, quoi.
Et alors, est-ce qu'il y a parfois, on sait que certains propriétaires ont des exigences assez énormes, voire abusives, quant à la caution, des garanties, en fait. Qu'est-ce qu'il faut savoir
là-dessus? Alors, en fait, on va faire la différence souvent, les mots qui sont utilisés de manière impropre. Alors, effectivement, la caution, alors qu'on entend souvent comme ça, la caution, normalement, c'est quelqu'un qui se porte cautionnaire. Donc, c'est un garant. Et vous avez aussi ce que, généralement, on appelle la caution, c'est qu'est le dépôt de garantie. Alors, c'est deux choses différentes. Le dépôt de garantie, c'est une somme qu'on va verser à l'entrée dans le logement pour couvrir le propriétaire en cas de chat... En cas de dégâts, en fait, causés dans le logement, qu'on pourra constater quand on va rendre le logement à la fin de la location, ou en cas d'impayé. Alors ça, effectivement, dans un vide, c'est normalement le principe, c'est un mois de loyer nu. Alors quand je dis loyer nu, je m'explique. Le loyer nu, c'est un loyer hors charge. Donc, par contre, dans un meublé, il n'y a pas de réglementation spécifique. Donc on peut, souvent, les propriétaires vont vous demander jusqu'à 2 mois de loyer nu en matière de dépôt de garantie. Donc c'est ça qu'il faut avoir conscience aussi, que si vous passez par exemple par une agence, vous allez à la fois avoir le dépôt de garantie, donc ça peut être jusqu'à 2 mois de loyer nu versé, ça peut être aussi des honoraires, les frais liés à l'établissement du contrat et de l'état des lieux, plus le loyer en cours. Donc, c'est sûr que...
C'est une grosse somme à débourser d'un coup.
Voilà. Mmh. Alors, après, on a le garant. Donc, c'est une personne qui va se porter cautionnaire en cas d'impayé de loyer. Donc, c'est-à-dire une personne qui pourra être sollicitée par le bailleur pour payer le loyer si vous ne le faites pas. Là, on va faire la différence entre une caution simple et une caution solidaire. Une caution simple, le propriétaire devra d'abord aller voir le locataire et simplement, si celui-ci ne paye pas, venir voir le garant. Une caution solidaire, ça veut dire que le propriétaire peut, dès lors qu'il y a un petit souci ou même pas, il pourrait demander directement au propriétaire, enfin au propriétaire, au garant, excusez-moi, de payer directement voilà. Donc oui. Ça, c'est une chose. Il existe une possibilité pour ceux qui ne peuvent pas avoir de garant, qu'il faut penser à utiliser, mais que tous les propriétaires pour l'instant n'acceptent pas, c'est ce qu'on appelle la garantie VISALE, V-I-S-A-L-E. Donc vous pouvez aller sur le site visale.fr, vous allez créer ce qu'on appelle un passeport étudiant, ça marche à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les salariés, jusqu'à 30 ans, je crois. Donc avec ce passeport, vous allez pouvoir le montrer au propriétaire et le propriétaire va être garanti par l'État, en fait, plus ou moins, parce que c'est Action Logement ou le 1% logement qu'on connaissait auparavant qui va garantir ce paiement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à payer, parce que Action Logement reviendra vers vous après, mais au moins, ça garantit au propriétaire d'être réglé en cas d'impayé du locataire. Et surtout, si le propriétaire accepte ce passeport visal, il ne peut pas vous demander de garant, parce que c'est toujours difficile d'obtenir un garant. Bon, pour les étudiants, la plupart du temps, on a les parents. Mais faut-il encore que les parents soient suffisamment solvables ou autres pour que le propriétaire soit assuré de la garantie? Ce qui fait que certains propriétaires peuvent demander plusieurs garants.
Ce VISAL, c'est ce qu'on appelait avant le LocaPass ou c'est différent?
Le LocaPass et VISAL, c'est le même organisme, c'est Action Logement qui le propose. VISAL, c'est pour justement la garantie, le cautionnement. Et LocaPass, c'est pour le dépôt de garantie. Ça peut vous permettre de financer ce dépôt de garantie, donc les 2 mois notamment qu'un propriétaire peut vous demander. Vous allez avoir une avance qui va être faite par Action location logement et vous allez pouvoir après la rembourser par petite mensualité, ce qui va faciliter les choses pour certains étudiants à l'entrée dans le logement puisque ça fera moins de sommes en une seule fois, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, dépôt de garantie plus loyer, plus si on passe par une agence les frais, ça peut faire très cher.
Plus le déménagement éventuellement d'ailleurs.
Tout à fait.
On aurait pu en dire un mot d'ailleurs sur est-ce qu'il y a des aides pour les déménagements spécifiques pour les étudiants
J'ai pas connaissance spécifique pour les étudiants, il faut peut-être chercher, ça peut être certaines communes aussi, parce que certaines collectivités mettent en place des systèmes, mais à ma connaissance non. Après, il faudrait peut-être voir justement aussi avec Action Logement, il est peut-être possible qu'il existe certaines aides ponctuelles dans ce cadre-là.
En tout cas, quand on a des petits revenus, il existe par contre
oui,
des
sûr.
Associations qui tout aident, qu'on soit étudiant ou pas d'ailleurs, qui aident à déménager. Sur l'assurance cette fois du logement. Est-ce qu'on est quand on prend un nouveau logement, théoriquement, on doit l'assurer oui. en cas de dégâts. Enfin, donc c'est pareil pour les étudiants, je suppose.
C'est une obligation légale, effectivement. C'est une des seules obligations, enfin, assurances obligatoires en France. Il y en a pas beaucoup, et effectivement, l'assurance habitation en cas de location, effectivement, obligatoire. Que ça soit effectivement pour tout un locataire lambda ou un étudiant.
Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner dans ce cas-là? Sur l'assurance habitation.
Après, ce sont pas des assurances. Quand on est sur des petits logements, ce sont pas des assurances qui vont coûter trop cher. On est à peu près, je dirais, entre selon les offres, parce qu'il peut avoir des offres étudiantes, on peut être entre 5 et 15 euros par mois. Alors, ça reste une petite somme quand même. Hein.
Ça se rajoute
aux charges.
Voilà, ouais.
Mais dans ce cas-là, il est peut-être possible de faire plusieurs devis en fait hein, chez des banques, chez des assureurs, et de voir en fait celle qui couvre le mieux. Mais la plupart du temps, oui, c'est ça. On est à peu près entre 5 et 15 euros par mois.
Bon, et quand on loue un logement, il y a plusieurs sortes de contrats possibles, c'est ça
Alors, on a le classique, hein, on a le logement vide. Donc là, on est sur un classique, hein, c'est des bails des baux de 3 ans. Hein, donc 3 ans, ça n'engage pas le locataire à rester 3 ans, hein, c'est le propriétaire qui a l'obligation en fait de laisser la location pendant 3 ans. Mmh. Ce qui est le plus souvent utilisé, c'est le bail meublé. Donc là, avec la spécificité pour... les étudiants, d'avoir au lieu d'avoir un bail d'un an qui est renouvelable tacitement. Alors peut-être que j'explique ce que c'est que renouvelable tacitement, c'est-à-dire que si ni le propriétaire ni le locataire dit à la fin de la location « je souhaite partir », le bail il est renouvelé automatiquement pour la même période. Donc à savoir, on a un bail d'un an, on repart sur une période d'un an. La spécificité du bail meublé pour un étudiant, c'est qu'il est de 9 mois et il n'y a pas de tacite reconduction en fait, spécifique. Bon. Si par contre, si on décide de rester un an de plus, là on va passer la plupart du temps sur un bail meublé classique d'un an.
D'accord.
On a aussi ce qu'on appelle le bail mobilité qui est assez récent, où là, ça serait plutôt pour des périodes plus courtes, puisque ce sont des locations qui peuvent se faire entre un mois et 10 mois. Donc voilà, après, ça va s'adapter. Mais d'accord. C'est pareil que le bail meublé pour 9 mois, il n'y aura pas de tacite reconduction. Il est possible, à ma connaissance, de pouvoir faire un avenant pour renouveler, par exemple, si vous avez pris une période d'un mois, de renouveler pour un mois, mais le tout, c'est de ne pas dépasser 10 mois.
D'accord.
Voilà.
Et si on doit, alors tant qu'on y est, hein, quitter son logement prématurément pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi?
Voilà, alors ça va dépendre effectivement du contrat de bail que l'on a signé. Donc si on est vraiment dans un vide et quand on a un contrat de 3 ans, le locataire qui va vouloir partir va devoir donner un préavis de 3 mois, sauf à ce qu'il soit dans le cadre d'un préavis réduit. Donc il existe une liste qui n'est pas spécifique aux étudiants. Là, ça peut être... perte d'emploi, ça peut être justement quand vous retrouvez un premier emploi suite à une perte d'emploi, ça peut être le RSA ou des choses comme ça. Donc là, il y a toute une liste de préavis réduits qui permettent de descendre ce préavis de 3 mois à 1 mois. Ce n'est pas ce qui concerne le plus les étudiants. Les étudiants étant dans un bail meublé, ça va être un préavis d'un mois.
Mmh, d'accord, donc ça va quoi.
Ça reste correct. Il faut juste penser à envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception et c'est la date de réception du courrier recommandé par le propriétaire qui va être le point de départ du préavis.
Bon. Et alors sur le fait de passer par une agence ou directement de se débrouiller, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil?
C'est pas vraiment un conseil parce qu'après, c'est fonction du logement que vous allez trouver. Si vous trouvez une annonce, effectivement, de particulier à particulier, ça reviendra moins cher puisqu'il n'y aura pas de frais d'agence. Ça sera le loyer plus le dépôt de garantie. Si effectivement, le logement qui vous convient ou qui vous plaît passe par une agence, là, il faut tenir compte du fait que vous aurez quand même des frais supplémentaires.
Est-ce que ça peut être un avantage quand même de passer par une agence? Enfin, quels peuvent être les avantages?
Alors, certaines personnes peuvent se sentir sécurisées s'ils ne maîtrisent pas trop un petit peu peut-être les principes de la location, de le fait qu'il y ait un agent immobilier qui soit là. Maintenant, Moi, personnellement, non. Enfin, je ne vois pas forcément d'avantage particulier, si ce n'est que, vous pourrez poser peut-être plus de questions. Il y a quelqu'un de neutre, normalement, au milieu. Mais non, personnellement, par rapport à d'autres... En tout cas, en matière de location étudiante, je ne vois pas de spécificité ou d'avantage particulier, ni d'inconvénient, hein, si ce n'est le prix.
Bah, si ce n'est le prix, oui. Voilà, ça peut être coûter combien là, de passer par une
agence.
Là,
je n'ai pas les prix en tête, mais en tout cas, je pourrais vous donner peut-être un lien à mettre sur le site de la station, puisqu'il y a des tarifs, effectivement, qui sont fixés. C'est un prix au mètre carré, en fait. Mm-hmm. Ne pas dépasser. La loi a décidé qu'effectivement, le prix, ça sera un prix au mètre carré.
Bon. Est-ce qu'il y a d'autres conseils encore à donner
par rapport aux annonces, c'est-à-dire que si vous prenez, vous faites des visites, les propriétaires vont souvent vous demander des documents. Alors déjà, il y a des documents, ça va être les classiques hein, que vous pouvez donner, ça va être la photocopie de la carte d'identité, l'avis d'imposition, les trois derniers bulletins de salaire, ça peut être aussi justement le garant. Voilà. D'avoir, si vous allez visiter, parce qu'il va avoir du monde.
Et ils peuvent les demander, ces documents, ils ont le droit de les demander.
Ils ont le droit de les demander. Bon. Alors, vous pourrez chercher, il y a des listes qui existent, des documents exhaustifs, des documents qu'on peut demander. S'ils ne figurent pas sur cette liste et qu'ils ne peuvent pas être demandés. Chez nous, on n'a pas trop de soucis parce que l'offre et la demande sont quand même suffisamment. Il y a suffisamment. Vous allez en région parisienne, c'est un peu autre chose. Et effectivement, quand un propriétaire vous demande un document qui n'est pas sur cette liste, vous pourrez contester, mais vous n'aurez pas le logement. Donc, c'est toujours pas évident. Mais nous, on n'a pas trop ce souci-là. Mais par contre, c'est d'avoir tous ces documents, que ce soit en numérique ou en papier, de manière. Le jour où vous allez faire cette visite, d'avoir ces documents et de pouvoir les donner. Puisqu'il y aura quand même pas mal de monde qui vont faire les mêmes démarches que vous. Donc, si vous voulez vous laisser une chance d'avoir si vous avez un coup de cœur pour un logement, ayez déjà avec vous tous ces documents.
Merci Valérie Boulche et merci à la CLCV, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui reviendra nous dispenser ses conseils pratiques la saison prochaine. Et en attendant, les permanences continuent, même l'été
Ça dépend des lieux, en fait. La plupart du temps, c'est vrai qu'en juillet-août, c'est fermé. Cette année, on va prolonger, en tout cas pour ma part, je vais prolonger jusqu'à la mi-juillet pour compenser effectivement l'absence de permanence pendant les périodes de confinement.
Très bien. Eh bien, on mettra toutes les précisions de toute façon sur le site internet de Radio Évasion.